Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Bonsoir aux auditrices, aux auditeurs de Principe Actif. Donc c'est le groupe d'Évreux d'Amnesty International qui est là pour sa deuxième émission mensuelle du mois de septembre, deuxième et dernière. Donc pendant une heure, on va vous parler de l'actualité des droits humains, des actions qui sont menées actuellement par Amnesty, des résultats qu'on obtient, et aussi des problématiques qui se posent et des choses qui se passent moins bien. Il y aura du positif et du moins positif dans l'émission, comme à chaque fois.
Voire du négatif, n'ayons pas peur des mots.
Voire du négatif. Alors, vous venez d'entendre Edith qui a une voix un peu cassée. Parce qu'elle n'est pas en très bonne santé, mais elle a quand même eu le courage de venir avec nous pour l'émission. Donc, il y a Edith, il y a Christian.
Bonsoir.
Voilà, donc c'est la première fois qu'il intervient au micro, Christian.
Bienvenue.
Bienvenue à Christian.
Bienvenue, Christian.
Il était venu il y a quelques temps assister à une émission, mais il n'avait pas parlé. Cette fois-ci, il se jette à l'eau et il va parler dans le micro. Et il y a Ronan qui est derrière ses manettes, comme d'habitude.
Bonsoir.
Et puis il y a moi.
Didier.
Moi, Didier.
D'accord. Donc on est là jusqu'à 19h. Pour commencer, comme on vous disait, effectivement, ce qui est important quand on s'occupe de respect des droits humains, encore une fois, pour nous, le respect des droits humains, c'est indispensable pour avoir un monde où on vit un peu mieux. Quand on s'occupe de respect des droits humains, ce qui est important, c'est de rester mobilisé, surtout dans une actualité qui, effectivement, n'est pas toujours simple. Il y a de nombreux points sur lesquels les droits humains sont malmenés, voire sont en état de régression. On va vous parler de la Turquie aujourd'hui, on va vous parler de l'état d'urgence en France, on va vous parler de la vente d'armes, parce que bien sûr, quand on vend des armes à des pays qui ne respectent pas les droits humains, on est amené à massacrer sa population civile, c'est trop souvent ce qui se passe, on va vous en parler aussi. Et on va vous parler de différentes choses par rapport à ça. Et donc, il faut rester mobilisé. Ce qui est important de savoir, ce qui est important d'avoir présent à l'esprit, c'est que c'est seule la pression des gens, la pression du public, la pression d'ONG comme Amnesty, auprès des États, auprès des structures officielles, auprès des instances internationales comme l'ONU, etc., qui permet de faire bouger les choses. Sinon, effectivement, on n'obtient rien. Comme on a souvent l'habitude de le dire, mais ça reste très vrai. On n'est jamais sûr de gagner un combat quand on commence quelque chose, mais on est sûr que si on ne fait rien, on va le perdre. Donc voilà, c'est important de le savoir. Alors la première séquence qu'on va vous proposer, c'est faire un petit point sur la discussion qui a lieu actuellement au Parlement en France.
On va parler de la France.
Voilà, on va parler de la France. Et sur la situation de la loi qui va être votée pour officiellement supprimer l'état d'urgence. Et on va vous expliquer que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que cette loi-là ne nous plaît pas du tout.
Les fidèles auditeurs doivent se rappeler de nos discussions au sujet de l'état d'urgence, de la reconduction de l'état d'urgence.
Exactement.
Et là, pouf, une loi.
Exactement. Qui doit en fait rentrer dans le marbre certaines dispositions qui sont actuellement dans l'état d'urgence, qui a été reprorogé X fois depuis 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on vit dans l'état d'urgence. Maintenant.
Donc c'est plus un état d'urgence.
C'est un état permanent.
Tout à fait.
Et le but de la loi, c'est de mieux, on ne va pas dévoiler le sujet tout de suite, parce qu'il y a un petit chapeau pour vous présenter le sujet, c'est tiré du site d'Amnesty, sur une vidéo que vous pouvez retrouver en ligne. On vous rappelle le site d'Amnesty, www.amnesty.fr, pour le site français. Et il y a une vidéo en ligne sur le dossier de l'état d'urgence qu'on vous conseille de voir, qui fait 15 minutes. Alors on a pris juste le début et la fin de la vidéo, le son simplement évidemment, mais le son se suffit à lui-même. On va vous passer 2-3 minutes de présentation et je vais enchaîner après.
Voir pour comprendre les dérives de la lutte antiterroriste. Des centaines de personnes ont été tuées et blessées lors d'attaques violentes, qualifiées de terroristes, qui ont récemment frappé l'Europe. Des milliers l'ont été partout dans le monde. Ces crimes ne visaient pas que des individus. C'était également des attaques contre des modes de vie et des modes de pensée, avec pour objectif de générer la peur. En réaction, les États ont adopté à toute vitesse des mesures de lutte contre le terrorisme qui ont restreint les libertés. Permettre à chacun de vivre en sécurité, c'est l'une des missions essentielles de tout gouvernement. mais pas à tout prix, et surtout pas en foulant aux pieds les droits mêmes que ces gouvernements prétendent défendre. Le terrorisme existe depuis l'Antiquité, et pourtant il n'existe aucune définition du terme « terrorisme » en droit international. Et pour cause, chaque État préfère défendre sa propre définition, souvent en fonction de ses propres intérêts. Des définitions souvent vagues, donc souvent préoccupantes, et parfois utilisées pour désigner un ennemi repoussoir. On laisse de l'incertitude quant à ce qu'est vraiment un acte de terrorisme. Et cette incertitude permet aux autorités de nombreux pays de cibler délibérément des opposants politiques, des défenseurs des droits humains ou de l'environnement, des journalistes, des artistes, des syndicalistes ou des individus, simplement sur la base de leur origine ou de leur religion. Même si le fait de susciter la peur au sein de la population ou de proférer une menace à son encontre est un élément clé des définitions du terrorisme, cela reste insuffisant et très subjectif. Par exemple, défendre pacifiquement une vision alternative de la société à travers des actes de désobéissance civile non violente peut être considéré comme une menace à l'ordre établi. Et des militants pacifiques peuvent se trouver en infraction avec les lois antiterroristes. Alors lutter contre le terrorisme quand on ne sait pas de quoi on parle, ça donne quoi ? C'est un ensemble de politiques, de législations, de pratiques qui trop souvent ne respectent pas le droit commun. Le terrorisme cherche à déstabiliser les États en les faisant tomber dans une surenchère sécuritaire. On constate alors deux dérives. La lutte contre le terrorisme sert à justifier la mise en place de mesures exceptionnelles qui impactent les droits humains de tous et servent de prétexte pour faire taire ceux qui ne sont pas d'accord. Et ça, c'est grave, car ça remet en cause le fonctionnement de nos sociétés. Alors que le rôle d'un gouvernement doit être d'assurer la sécurité de la population pour qu'elle puisse jouir de ses droits, il paraît normal maintenant que les gouvernements restreignent les droits de la population afin d'assurer sa sécurité. Et ça, c'est un vrai problème. C'est comme ça que la mise en œuvre de mesures antiterroristes a sapé l'état de droit. L'idée selon laquelle nul n'est au-dessus de la loi, même pas l'État. Ces mesures ont ainsi renforcé les pouvoirs exécutifs, mis à mal les garanties judiciaires, restreint la liberté d'expression et exposé l'ensemble de la population à la surveillance des gouvernements. Voici quelques caractéristiques de ces programmes de lutte contre le terrorisme. Ça fait froid dans le dos. Recours à la torture, arrestation et emprisonnement arbitraire, des défenseurs des droits humains, des opposants politiques, des journalistes, des minorités, surveillance de masse, perquisition sans autorisation d'un juge, interdiction de manifester. Les droits, valeurs et principes que les États sont censés protéger sont attaqués. C'est comme ça qu'après des décennies de lutte collective, l'édifice de la protection des droits fondamentaux, construit avec tant de soin après la Seconde Guerre mondiale, se fait démanteler. Ces dérives et ces violations des droits humains ont lieu partout.
Tout. Partout, oui, effectivement. C'est moi qui ai préparé la.
C'est qui qui a fait ce montage ?
La présentation et la fin est un petit peu coupée, un peu abrupte. Bon, c'est ont lieu partout, effectivement. Et donc en France. Alors, on va vous parler de la situation en France. Le 2 juillet 2017, le président Emmanuel Macron a annoncé son intention de sortir de l'état d'urgence à l'automne. Une bonne nouvelle ? Non. Un tour de passe-passe. Les principales mesures de l'état d'urgence seront en effet intégrées dans le droit commun par le biais d'une nouvelle loi bientôt en discussion. Donc la discussion, c'est actuellement qu'elle a lieu. Elle a déjà été votée au Sénat, je crois, elle est en discussion au Parlement. Un danger désormais permanent pour les libertés, sans garantie supplémentaire pour notre sécurité. Au moment même où Emmanuel Macron annonce la fin de l'état d'urgence, deux projets de loi doivent être étudiés par les parlementaires dans les prochains jours et semaines pour rendre les mesures les plus problématiques de l'état d'urgence permanentes. Comme sous le précédent quinquennat pour le vote des précédentes lois antiterroristes, c'est à chaque fois la procédure accélérée qui a été retenue pour faire voter ces deux projets en un temps record, empêchant toute concertation véritable avec la société civile et tout débat de fond basé sur un travail d'évaluation réel au Parlement et dans l'opinion publique. Le 12 juillet, l'état d'urgence est entré officiellement en vigueur pour la 6e fois depuis le 13 novembre 2015, prolongeant ce régime exceptionnel jusqu'au 1er novembre 2017. La France aura alors vécu 2 ans, soit la plus longue période de son histoire depuis la guerre d'Algérie, sous ce régime d'exception. Par définition conçu pour être temporaire et réactif. Pourtant, de très nombreuses organisations, dont Amnesty International, ont alerté depuis 2 ans sur les dérives et abus commis sous l'état d'urgence. Pourtant, de nombreux experts de la sécurité et des parlementaires responsables du suivi de l'état d'urgence ont à de nombreuses reprises alerté sur la très faible efficacité de l'état d'urgence aujourd'hui et la nécessité d'en sortir. Le 4 juillet 2017, le Sénat a voté pour sa reconduction à l'identique. Le 6 juillet, l'Assemblée nationale a fait de même. Même si les interdictions individuelles de manifester, pourtant censurées par le Conseil constitutionnel, ont été réintroduites dans ces sixième loi de renouvellement de l'état d'urgence, les préfets pourront donc continuer d'interdire à des personnes de manifester sur des bases très vagues et floues. Fin juin, le gouvernement a dans le même temps transmis au Parlement un nouveau projet de loi renforçant la sécurité et la lutte antiterroriste. Celle-ci doit être discutée et adoptée par le Parlement, vraisemblablement d'ici septembre. C'est ce qui se passe actuellement. Ce projet de loi, présenté comme permettant de sortir de l'état d'urgence, ne fait en réalité que transposer ses principales mesures dans le droit commun. Ainsi, le ministère de l'Intérieur et les préfets pourront désormais prendre des mesures restreignant considérablement les libertés. Perquisitions, assignation à résidence, fermeture de lieux de culte pourront être prises sur la foi de simples soupçons, peu ou pas étayés des services de renseignement. Seules les perquisitions bénéficieront d'une autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Les préfets pourront prendre des mesures de fouille systématiques des personnes et véhicules dans des périmètres déterminés, sans avoir besoin de justifier d'un quelconque motif à l'encontre de la personne visée. Je répète hein, quand même, effectivement, les préfets pourront prendre des mesures de fouille sans avoir à justifier d'un quelconque motif. Les personnes visées le seront sur des critères flous d'appartenance à l'entourage de personnes ou d'organisations ou d'adhésion privée à des idées, sans exiger la preuve de la commission ou la préparation d'un acte de terrorisme, d'une infraction pénale donc. Quant au contrôle par la justice, il risque, comme pour l'état d'urgence, d'être peu effectif. Dans la mesure où les juges auront à se baser sur des motifs flous et des incriminations très vagues pour rendre leurs décisions. En rendant permanente la logique de l'état d'urgence, qui est celle du soupçon, cette nouvelle loi antiterroriste produira vraisemblablement les mêmes effets, des mesures abusives, disproportionnées, arbitraires, contre des personnes et des groupes. Alors j'ai là, bon, je vais vous faire un petit résumé, parce qu'il y en a des pages et des pages, la déclaration publique qui a été faite cet été par Amnesty, avec les principaux griefs qu'on vient de vous lister, c'est un peu plus détaillé. Donc c'est l'état d'urgence, comme on vous disait, transposé en droit commun. On vous disait par exemple que les préfets auront le droit de pouvoir ordonner des visites et saisines, c'est-à-dire en pratique des perquisitions, de fermer des lieux de culte ou d'instaurer des zones de sécurité en invoquant des motifs très vagues et sans que les autorités judiciaires puissent exercer un contrôle en amont, sauf pour les perquisitions. Le ministère de l'Intérieur pourra imposer cette mesure de contrôle visant à restreindre la liberté de circulation et à surveiller des individus. Amnesty International craint que les nouvelles mesures prévues par le projet de loi ne soient ni nécessaires ni proportionnées pour atteindre l'objectif légitime de protéger la sécurité nationale contre les risques de nouveaux attentats. Un peu plus loin, on parle de nouvelle typologie des perquisitions. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sous le régime de l'état d'urgence actuel, les préfets peuvent autoriser une perquisition sans l'autorisation d'aucune autorité judiciaire et en invoquant des motifs graves, comme on vous le disait. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ce qui paraissait logique, c'était que seuls les gens qui étaient juges, donc qui sont titulaires du pouvoir judiciaire, pouvaient prescrire des perquisitions. Bah oui, parce qu'effectivement, ce sont les spécialistes du droit. Donc ils pouvaient savoir si, effectivement, la police avait le droit ou non de rentrer chez les gens. Maintenant, c'est fini. C'est les préfets qui vont pouvoir le faire. Or, les préfets, ce ne sont pas des juristes. Ce sont simplement des représentants de l'autorité publique, c'est-à-dire de l'exécutif. Il y a confusion, effectivement, des valeurs
du niveau de la justice. Je crois qu'il y a aussi, quand tu parlais par rapport aux gens qui sont contre, il y a pas mal de juristes, il y a des syndicats de magistrats et tout, qui sont vraiment contre cette loi. Donc,
tout à fait. J'ai noté d'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure, enfin en conclusion, quelques propos d'un avocat qui est intervenu sur une autre radio par rapport à ça et qui avait des propos extrêmement virulents et extrêmement sensés. Donc, effectivement, ces perquisitions, c'est une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public. Ça, c'est les motifs invoqués. Ce sont les gens qui sont soupçonnés de terrorisme et qui entrent en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou qui soutiennent ou adhèrent à des thèses incitant à la commission d'actes en France ou à l'étranger à de tels actes. Ce sera suffisant. Simplement, le soupçon que ces gens participent à ça permettra au préfet d'autoriser les perquisitions. On rentre effectivement dans l'ère du soupçon et non plus, comme c'était le cas jusqu'à présent, dans l'ère du délit prouvé. Un peu plus loin, effectivement, il est question aussi de surveillance et d'autres mesures individuelles. Au terme du droit pénal français, les autorités judiciaires, notamment le juge d'instruction ou le juge des libertés, peuvent prononcer des assignations à résidence contre les personnes mises en examen, c'est-à-dire contre lesquelles il existe des indices graves ou concordants qu'elles aient pu participer à la commission d'une infraction. Dans le cadre de l'état d'urgence, les critères retenus pour prononcer une assignation à résidence sont beaucoup moins stricts. Un arrêté d'assignation à résidence peut être pris contre un individu lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. C'est toujours la même rhétorique, ce n'est plus la preuve que la personne s'est livrée à des actes, c'est le soupçon qu'elle va le faire. On change complètement de notion juridique. Plus loin, on signale dans le même commentaire d'Amnesty, signale l'obligation de signaler pour les personnes qui sont soumises à surveillance, donc à surveillance et à résignation et à
assignation,
merci Élite, l'obligation de signaler tout changement de domicile et de déplacement en dehors d'un périmètre déterminé. Les deux mesures peuvent être associées à d'autres restrictions. Comme par exemple l'obligation de déclarer toutes les identifiants de communication électronique ou l'interdiction de rentrer en relation directe ou indirecte avec d'autres personnes dont il existe des raisons de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. Donc les gens qui seront soupçonnés, non seulement l'État peut les obliger à dire quelles sont vos adresses électroniques, quelles sont vos adresses sur Facebook, etc., etc., parce qu'on va les fouiller dans vos dossiers, mais en plus, effectivement, de dire, on vous soupçonne d'être en relation ou de vouloir rentrer en relation avec des gens qui sont eux aussi soupçonnés d'avoir des visées terroristes. Donc c'est vraiment quelque chose qui, l'ère de soupçon, ne va que s'amplifiant de façon tout à fait dramatique. Encore une fois, l'autorité judiciaire est écartée de tout contrôle en amont, car le ministre devra se limiter à informer le procureur de la République avant d'imposer une de ces mesures à l'égard d'un individu. Donc il y a simplement l'obligation pour l'exécutif d'informer, non pas de demander les autorisations. Les fermetures de lieux de culte dont vous a parlé tout à l'heure, effectivement, maintenant les préfets ou le ministre de l'Intérieur peuvent ordonner la fermeture des lieux de culte au sein desquels sont tenus des propos constituant une provocation à la haine ou à la violence ou une provocation à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. En droit commun, ce qu'il faut savoir, c'est que le Conseil des ministres, il peut déjà prononcer la dissolution d'associations ou autres par rapport à ce genre de choses. Donc effectivement, l'arsenal judiciaire préexistant à l'état d'urgence était largement suffisant pour intervenir dans ce domaine. On ne fait que rajouter des couches sur des couches.
On ne va plus appeler les préfets, mais shérifs. Ça c'est un fait peu vraiment ça. Penser à
c'est
ça.
C'est un peu ça. C'est une très bonne remarque que tu fais là. Effectivement, ça fait un peu... Je sors mon revolver et je tire à vue, entre guillemets. Enfin, on exagère un peu. Mais c'est effectivement le royaume des
arbitraires. J'ai tout le pouvoir. Et puis, je fais ce que je veux. Et puis, ça peut changer d'un département à l'autre parce qu'ils sont différents.
Voilà. Et alors, par rapport à cette autorisation qui sera donnée au préfet de fermer des lieux de culte, Amnesty International craint que cette mesure ne puisse constituer une restriction disproportionnée au droit à la liberté de religion et de réunion. Il y a également les notions par rapport au périmètre de protection des gens. Les préfets, alors ça je vais vous résumer très brièvement, les préfets auront le droit effectivement d'assigner des gens dans des périmètres soupçonnés, là encore une fois, de vouloir... S'intéresser au terrorisme, entre guillemets, ou de vouloir projeter des choses ayant rapport à ça, pourront les astreigner dans un périmètre extrêmement restreint, donc de s'attaquer à leur disponibilité d'aller et venir librement. Alors, en conclusion de ce petit texte, Amnesty fait des recommandations que je vais vous résumer, enfin que je vais vous lire, mais c'est très court. Recommande à l'Assemblée nationale et au gouvernement actuel de s'interroger, en particulier au vu de ses obligations conventionnelles et constitutionnelles, sur l'opportunité et la nécessité de modifier le droit commun pour introduire des mesures prévues dans le projet de loi, étant donné les instruments juridiques et judiciaires existants, notamment en matière pénale, pour lutter contre les actes de violence en lien avec le terrorisme. Je rappelle à ce propos-là, c'est moi qui le dis, mais ce que j'avais dit dans une précédente émission, que vous pouvez retrouver, qu'on a dû faire il y a au moins un an ou un peu plus, que vous pourrez trouver sur le site d'Amnesty, où je parlais de l'ensemble des lois qui avaient été faites depuis les années 90. Je crois qu'il y avait quelque chose comme une quinzaine de lois antiterroristes qui avaient déjà été votées en France. Donc ça devient absolument hallucinant. Donc l'État a également pour Amnesty l'obligation de s'assurer que toute mesure, si elle devait être adoptée par le Parlement, nécessite l'obtention d'une autorisation préalable d'un juge, comme c'est le cas pour les visites et saisines dans le projet de loi, soit limité notamment dans le temps à ce qui est strictement nécessaire et proportionnel au but de protection de la sécurité publique, puisse faire l'objet de recours juridiques effectifs, repose sur des motifs libellés de façon claire et précise, en particulier s'assurer de toute mesure, que toute mesure ne puisse être imposée qu'en cas de lien de connexité suffisamment direct et immédiat entre le comportement visé par la mesure et la commission d'un acte de violence lié au terrorisme, et ce sur la base de soupçons suffisamment nombreux. Et enfin, exiger que les autorités compétentes précisent dans chaque décision portant sur ces mesures les éléments précis et circonstanciels sur la base desquels elles ont été requises ou autorisées. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, il y a eu une dérive très grande. On passe effectivement, encore une fois, de l'ère de non plus de la preuve de l'acte de délinquance, mais à l'ère du soupçon.
Du soupçon.
Et que maintenant, le soupçon suffit. Et qu'on est tous concernés par ça, parce qu'on sait où ça commence et on ne sait pas où ça s'arrête. Et comme tu disais, effectivement, Edith, tout à l'heure, il y a ce nombre de juristes qui sont vent debout par rapport à ce qui est en train de se préparer au Parlement.
Leur profession et leur place dans le système judiciaire est complètement remis en question.
Voilà. Et donc j'avais noté ces propos d'un avocat qui s'appelle Maître Sureau et qui a intervenu auprès du Conseil constitutionnel pour protester contre ce projet de loi et qui dit que ce projet de loi fait rupture avec un droit ancestral, celui qu'on ne peut pas être jugé sur une démarche qui vise à s'informer. Oui, ça on n'a pas trop parlé, mais il insistait lourdement sur le fait que maintenant, avec ce projet de loi, des gens qui vont aller sur des sites entre guillemets djihadistes ou autres, simplement pour s'informer, ce qui est le cas des journalistes, par exemple. Si on veut faire un article là-dessus, effectivement, il faut bien s'informer.
Je t'arrête. Oui. L'exemple des journalistes français, le dernier emprisonné en Turquie, c'est ça. Mmh. Il avait sur son ordinateur une discussion avec un Kurde ou des photos où il était pris avec lui. Et avec ça, on peut emprisonner quelqu'un. Et ben voilà le résultat.
Voilà. Donc maintenant, dans le projet de loi, le fait d'aller consulter des sites djihadistes, ce qui est le rôle effectivement et que n'importe qui peut faire, hein, ça ne veut pas dire qu'on est un terroriste, on a le droit de s'informer, y compris par des choses qui peuvent nous paraître absolument monstrueuses, eh bien ça peut constituer effectivement un délit. Maintenant, c'est le soupçon qu'on est prêt à passer à l'acte. Et l'exemple que prend cet avocat, donc M. Sureau, il dit « On aurait mieux fait, par exemple, de lire Mein Kampf, le fameux bouquin de Hitler, avant la guerre, pour savoir ce qui nous était réservé. » Là, il parlait du droit de s'informer. Et il précisait après, quand vous avez autorisé l'État à vous dire ce que vous pouvez lire ou voir, c'en est fini pour toujours. Si aujourd'hui, on vous dit, donc que je tourne la page, que ce n'est pas bien de consulter des sites djihadistes, demain, on vous dira que ce n'est pas bien de consulter des sites disant que le capitaine Dreyfus était innocent, ça c'est l'affaire Dreyfus au XIXe siècle, ou qui critique le Front National. Une fois que le premier verrou a sauté, il n'y a plus de raison de s'opposer au verrou ultérieur. Voilà. Donc je crois qu'il faut être très conscient, et on va s'arrêter là, parce que le temps passe déjà, il faut être très conscient de cette dérive effectivement, qui est en cours de vote au Parlement, qui malheureusement a toutes les chances de passer, mais nous on restera très mobilisés par rapport à ça, parce que c'est la porte ouverte à absolument n'importe quoi. Et en conclusion, donc on va vous passer le deuxième extrait, c'est les conclusions d'Amnesty sur le petit site dont je vous parlais tout à l'heure, que vous retrouverez en ligne sur amnesty.fr.
Pourtant, ça tombe sous le sens. On ne peut pas protéger les libertés en les supprimant. Renoncer aux droits humains, c'est une catastrophe. Alors qu'est-ce qu'on fait concrètement une fois qu'on a dit ça? Les politiques antiterroristes doivent respecter les principes de base d'un état de droit, sans quoi une société bascule dans l'arbitraire. Et pourtant, il y en a des solutions. Elles reposent sur 5 principes. Légalité, nécessité, proportionnalité, non-discrimination et procédure équitable. Jetons un œil sur ces principes. Tout d'abord, il faut sortir du flou et de l'interprétation. Cela empêche les autorités de s'en prendre à des personnes qui n'ont rien à voir avec le terrorisme. Définir de façon claire et précise ce que sont les actes terroristes et les limiter à ce qu'ils sont réellement, comme le propose le rapporteur spécial des Nations Unies. Les actes dits terroristes devraient concerner uniquement la prise d'otage et la violence physique mortelle ou grave dirigée contre des membres de la population en général, dans l'intention de provoquer la terreur ou d'obliger un gouvernement ou une organisation internationale à faire ou à ne pas faire quelque chose. C'est le principe de l'égalité. Ensuite, il faut garder la tête froide. Si des mesures doivent sortir du droit commun, c'est uniquement parce qu'aucune autre ne peut permettre d'atteindre le but poursuivi face à une menace exceptionnelle et imminente. Par exemple, l'état d'urgence. Les responsables du suivi de l'état d'urgence le disent. Ses effets ont été réellement bénéfiques seulement pendant quelques semaines. Au-delà, les autorités françaises devraient démontrer qu'il est toujours nécessaire, ce qui n'a pas été fait. C'est le principe de nécessité. Bien entendu, il faut être mesuré. Les décisions prises doivent être à l'échelle des objectifs à atteindre et de la nature de la menace. C'est le principe de la proportionnalité. Évidemment, il faut être équitable. Les mesures choisies ne doivent en aucun cas viser les membres d'une communauté dans son ensemble, que ce soit des musulmans, des migrants ou des réfugiés, ou des défenseurs des droits humains et des militants. C'est le principe de non-discrimination. Enfin, il faut être juste. Il doit y avoir des éléments de preuve concrets pour poursuivre quelqu'un. L'usage fréquent de notes blanches, sans date, ni en tête, ni référence, ni signature, empêche une procédure équitable. En effet, toute personne doit pouvoir contester en justice les mesures dont elle fait l'objet, et doit pouvoir obtenir réparation des dommages subis. C'est le principe de procédure équitable. Quelle que soit la situation, aussi complexe soit-elle, les États doivent rester garants des libertés et des droits humains pour ne pas répondre à l'horreur par la perte de nos valeurs collectives. Car comme le disait Hannah Arendt, s'il cesse de penser, chaque être humain peut agir en barbare.
Bravo, bon enregistrement.
Voilà, oui, là j'avais coupé sans couper la parole à l'intervenant.
Alors on peut redire la phrase de Hannah Arendt.
Alors je vais vous dire ça de mémoire, effectivement, si l'on cesse de penser, tout individu peut se conduire en barbare. C'était ça, Christian.
Voilà.
J'interroge Christian parce que j'écoutais en même temps, mais j'ai plus. Enfin, c'était pas du mot à mot, mais c'était.
Non, mais je suis coquine. Bon,
Je pense que c'est peut-être le moment de faire une petite bonne nouvelle.
Ouais,
parce qu'après
tout. Ouais, parce que c'était très dense.
C'est quand même des informations qui sont pas très gaies.
Alors, ouais, donc, non, bah, une bonne nouvelle, c'est pas la Tunisie, Jordanie, la loi contre les violences faites aux femmes. Ah, là, je vois.
Samy, Claire-Lise, avec moi. Mina.
C'est Élie qui manifeste pour le droit des femmes.
Ah non, mais je vais dire, non, celle-là, on veut l'entendre.
Ouais, bon, on va l'entendre. L'adoption par le Parlement tunisien le 26 juillet d'une loi visant à lutter contre les violences faites aux femmes est une avancée importante. Adoptée à l'unanimité.
C'est ça.
Ah, mais c'est comme bien.
Tous d'accord.
Oui, tout le monde d'accord. Ce texte abolit en particulier les dispositions qui prévoyaient l'abandon des poursuites contre les auteurs de violences sexuelles à l'encontre de jeunes filles mineures si l'auteur épousait la victime.
Oui, parce qu'il faut savoir. Vous vous rappelez,
ouais. Oui. On a déjà parlé avant, c'était un.
Au Maroc, dans plusieurs pays.
Et de son côté, la Jordanie a voté le 1er août, après une intense campagne menée par les défenseurs des droits des femmes et de la société civile, l'abolition de la loi autorisant les violeurs à échapper à toute sanction en épousant leur victime. Donc là, c'était aussi la Jordanie. Ouais. Et le 20 juillet, les défenseurs des droits des femmes avaient également célébré la modification de l'article 98. Bien sûr, tout le monde sait ce que c'est l'article 98.
Pas vraiment.
On est partant.
Qui n'accorde plus de clémence aux auteurs de crimes d'honneur en raison de circonstances atténuantes. Donc c'est quand même, je dirais que pour les femmes, c'est quand même une très bonne avance.
Donc il se passe des choses dans les pays.
Et pour la Tunisie aussi, voilà, et pour le Maghreb.
Tout à fait.
Ça avance malgré tout ce qu'on peut dire.
Bon, je pense que c'est le moment de passer une petite pause musicale.
Musique.
Oui, un peu de musique. Yeah, oh, yeah.
City that dreams. Ring them bells from the sanctuaries, cross the valleys and streams, for they're deep and they're wide, and the world's on its side. Yeah. And time is running backwards, and so is the bride. Now on the wheel and the plow.
the top of the room. Ring them from the fortress for the lilies that bloom. All the lights they are low, and the fighting is strong. Oh, when they're breaking down distance between right and wrong. Ring them bells for the blind and the deaf. Ring them bells for all of us who are left. Oh, ring them bells for the time that flies, for the time that cries, oh, when the innocents die. Oh, ring them bells, oh, ring them bells, oh, ring them bells, oh, ring them bells, just ring those bells, yeah, yeah, yeah.
On vient d'entendre Natasia Bedingfield, un morceau de, une reprise de Bob Dylan sur le disque d'Amnesty dont on, qu'on utilise régulièrement, qui s'appelle Ring Them Bells. Et ça veut dire en français, sonnons-leur les cloches. Je trouve que c'était bien vu après l'histoire du vote par le Parlement. Sonnons-leur les cloches.
Tu peux pas dire le contraire, c'est toi qui as choisi le morceau.
Oui.
Ouais, puis on peut dire aussi que ça sera peut-être bien pour le prochain article et puis peut-être celui d'après. On sonne souvent les cloches quand même.
Exactement.
À certains.
Exactement. Après, je crois que c'était Edith qui voulait vous dire quelques mots sur un sujet bizarre. Elle va vous parler de robots. On fait de la science-fiction ?
Eh bien, tu as le choix.
Ça peut-être ménager, non ?
De la science-fiction, un robot pour tondre ou ménager, on va voir. Mais non, malheureusement, c'est un peu plus compliqué que ça. Même si c'est un article, un sujet que je ne connaissais pas. Et en me mettant un peu sur les informations que donne Amnesty, ça me semble quand même bien, bien embêtant. Je vais vous laisser juger. Alors, le début de l'histoire, on va dire 2010 en Corée du Sud. Vous savez bien, Corée du Sud, Corée du Nord, on en parle pas mal tout de suite. Et la Corée du Sud a confié la surveillance de la zone démilitarisée entre les deux Corées à un robot qui a été conçu par le groupe Samsung. Il s'appelle SGR-A1. Il est équipé de caméras, de capteurs et il peut détecter des cibles dans un rayon de 4 km qui doivent correspondre à peu près à la zone démilitarisée. C'est une grosse sentinelle trapue qui mesure 1m20 et qui pèse 117 kg et qui est aussi lourdement armée d'une mitrailleuse, d'un lance-grenade et surtout d'un système de reconnaissance vocale qui lui permet, le cas échéant, si elle repère des intrus qui ne possèdent pas les bons mots de passe et ne s'arrête pas à ses tirs de semonce, de les abattre. Après tout de même avoir requis le feu vert d'un opérateur humain. Samsung dit qu'il a appelé son robot l'infatigable. C'est d'autant plus inquiétant qu'il peut devenir rapidement complètement autonome et se passer de toute opération pour guerroyer. L'activation de son mode automatique lui permet en effet d'ouvrir le feu de sa propre et seule initiative. Alors il n'est pas le seul qui existe actuellement en usage. La marine américaine, depuis 1980, en a eux, qu'ils appellent Phalax, et qu'ils ont surnommé...
R2-D2, je me trompe toujours dans le sens.
Voilà, car il ressemble au fameux robot de Star Wars. Il y a aussi un bouclier israélien d'homme de fer en service depuis 2010, qui est capable de détecter et de détruire automatiquement des roquettes lancées vers Israël depuis le Liban ou la bande de Gaza. Désormais, ce sont les industriels de la défense alléchés par un marché d'avenir qui ambitionne d'automatiser sur terre, sur mer et dans les airs aussi. Car effectivement, si on déploie des robots, un champ de bataille avec simplement des robots chargés d'effectuer des missions risquerait de réduire le nombre des combattants humains directement exposés au danger. Vous m'avez suivi, ça vous semble d'accord. Beaucoup moins de morts. Mmh. Mais la lecture que l'on peut faire, celle des ONG dont Amnesty et d'autres, Human Rights Watch, qui réclame l'interdiction des robots tueurs. Alors écoutez bien les arguments, parce que là, on n'est pas dans un film de science-fiction. Pour les initiateurs de cette campagne, abandonner à des machines un droit de vie ou de mort revient à franchir une ligne morale fondamentale. Le jugement humain et la compréhension des contextes permettent seuls de faire des choix complexes sur un champ de bataille pour distinguer des soldats des civils et pour estimer la proportionnalité d'une attaque. Tout cela disparaîtrait avec l'emploi de robots autonomes qui contreviendraient par conséquent aux lois de la guerre. Car ces engins, ces robots tueurs, ne savent pas reconnaître seuls un civil d'un combattant. Il peut considérer a priori le robot coréen tout un truc comme un ennemi. On imagine sans peine à quelle effroyable tuerie ils pourraient se livrer s'ils étaient abandonnés à une complète autonomie. D'autre part, remplacer des troupes conventionnelles par des machines faciliterait le déclenchement des guerres. Les États engageraient plus facilement des conflits s'ils avaient l'assurance de pouvoir se prévaloir auprès de leurs opinions publiques d'opérations zéro mort.
Bien sûr.
Cela conjugué avec l'absence de définition claire d'une chaîne de responsabilité, c'est pas moi, c'est le robot. Hein? Mm-hmm. Ah ben non, il devait pas être là. Ah ben c'est bête, vous étiez en face. Eh ben tant pis. Voilà. En gros, c'est à peu près ce qu'on pourrait dire. Mm-hmm. Alors en 2014, les Nations Unies, interpellées par les ONG, lancent une série de discussions toujours en cours au moment de ces lignes. Donc là, l'article date de septembre hein, de 2017, autour des systèmes d'armement létaux autonomes. Ça s'appelle SALA. Hein. Et ce qu'il y a aussi, il y a des prix Nobel, 20 prix Nobel qui en 2015 ont signé un texte demandant l'interdiction immédiate de ces robots. Car ils ont été rejoints par des milliers de scientifiques, des spécialistes pour la plupart de l'intelligence artificielle. Ils savent absolument de quoi ils parlent. Ils ont fait une lettre ouverte en 2015 pour l'interdiction de ces robots. Les signataires réfuter l'argument systématiquement privilégié par les suppôts de guerre robotisés, selon lequel remplacer des hommes par des machines permet de limiter le nombre des victimes du côté de celui qui les possède. Ils prédisent plutôt que les robots tueurs apparaîtront rapidement sur le marché noir. Car effectivement, pour fabriquer un robot tueur, on n'a pas besoin de matériel coûteux ou difficile à obtenir, contrairement aux armes nucléaires. Ces robots finiront inévitablement par tomber entre les mains, au choix, vous cochez, terroristes, dictateurs désireux de contrôler davantage leur population, seigneurs de la guerre, ou peut-être même des gongs, pourquoi pas.
Et moi, ça me fait penser à un film de science-fiction,
oui, mais là, Control, voilà.
Qui en fin de compte, les robots qui se retournent contre les humains.
Ah, là voilà, c'est autre chose, là tu lui donnes encore une intelligence.
Ah, mais...
Mais là, la façon dont ils sont faits actuellement, donc depuis 2015, Amnesty observe que le sujet suscite désormais beaucoup de débats, mais très peu d'actes. Amnesty demande à nouveau une interdiction au niveau mondial des robots tueurs létaux, qui ne seraient pas conformes aux normes relatives aux droits humains et qui ne respecteraient pas les lois de la guerre. Alors, en août 2017, constatant que ces multiples alarmes restent vaines, le milliardaire américain Elon Musk, fondateur du spécialiste des bolides électriques Tesla, alors moi j'avoue que je ne le connais pas, mais bon, il a consigné avec une dizaine d'autres patrons d'entreprises dédiés à la robotique et à l'intelligence artificielle, une nouvelle lettre ouverte alarmiste aux Nations Unies. « Il est urgent d'agir », écrivent-ils. Car une fois que cette boîte de Pandore sera ouverte, il sera très difficile de la refermer. Alors, ce qui est un peu inquiétant quand on regarde ce qui se passe dans les autres pays, c'est que ça commence à être une course aux armements. Alors, je vais vous donner des noms de certains pays, États-Unis, Chine, Royaume-Uni, Russie, qui, eux, se sont lancés dans ce qu'on peut bien appeler une course aux armements robotisés. Le débat s'éternise à l'ONU. Mais il y a des experts du Pentagone qui disent « Oh, trop bien ces robots, il faut absolument accélérer la conversion aux armes autonomes. » Donc ils sont très très alarmistes même par rapport, ils sont très volontaristes par rapport au fait que l'armée achète de plus en plus de robots. Donc pour Amnesty, c'est une étude glaçante qui est vraiment très inquiétante et qui donne du poids aux machines. Car ces systèmes ne sont, sont autonomes, mais pour atteindre des objectifs et faire leurs propres choix, ce n'est pas possible. Alors que les Américains, cette commission essaye absolument, sont des fervents partisans des robots, car ils essaieront de mettre sur eux plein de techniques de l'intelligence artificielle pour leur déléguer des tâches qu'ils considèrent dangereuses pour leurs soldats. Donc, Amnesty a bien expliqué qu'avant, c'était le contraire, ça mettrait en danger les autres soldats. Alors en France, allez-vous me dire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien en France, quand on parle d'armement, ça devient, comment dire, un petit peu hypocrite. Donc on sait
non,
qu'il y a...
C'est vrai?
Oui, oui, oui.
C'est bizarre,
ça. Voilà. Moi, les Américains, ils sont cash. Ils disent, on voudrait beaucoup plus de robots. Les gens du Pentagone disent ça. Mmh. En France, on est beaucoup plus discret. Donc, c'est le groupe français Safran qui a présenté en 2016 un robot tactique destiné aux forces terrestres. Selon ses concepteurs, ce drone est capable de comprendre son environnement, de s'y mouvoir efficacement en toute sécurité. Il ressemble à peu près à un banal véhicule tout-terrain et peut être piloté comme n'importe quel 4x4. Il a des équipements complémentaires et il y a un catalogue où on peut encore acheter plein d'équipements pour mener des missions en autonomie.
C'est la redoute, non?
Oui,
c'est
absolument, partielle ou totale. Je crois qu'aller voir un...
Vous voulez avec ou sans option, c'est ça, quoi.
Un salon international des armes, ça doit être, ça doit
non,
pas être
non,
rien.
Non, ça m'intéresse pas, non.
Ouais, mais ça va être à vous le coup. Parce que là, par rapport à ce salon, eh bien, on a une journaliste du quotidien économique des Échos qui s'extasie. On a aussi l'envoyé spécial du Figaro qui n'en est pas moins enthousiaste. Comme l'industrie, les armées ont engagé leur révolution numérique. Robots terrestres, sous-marins, drones, big data, intelligence artificielle s'engagent dans leur rang. Alors, ce qu'elle oublie un tout petit peu de dire, c'est que elle fait partie de groupes financiers qui sont leur DG, c'est Dassault, qui lui aussi est directeur du groupe français Safran.
Oui.
Voilà, on va se dire qu'un peu, il y a une petite publicité gratuite qui se fait dans certains journaux, quoi. Mais enfin, tout ce qu'on veut dire, c'est que ça nous semble quand même très, très inquiétant, car c'est une course à l'armement et qu'il y a effectivement des robots qui, à un moment ou un autre, comme disait Ronan, vont peut-être passer avec des décisions autonomes. Et dans ce cas-là, on peut imaginer un film de science-fiction, mais ça ne sera pas un film de science-fiction.
Tout à fait, ça sera du réel.
Ça sera des champs de guerre entre des pays, entre des gens.
Et en plus, sans vouloir faire de la pub, c'est pas de la pub, mais l'industriel qui a fait les premiers robots est le même industriel sur lequel on a fait des pétitions par rapport au téléphone portable. Il me semble que c'est Samsung.
Ah oui, moi aussi.
Non, mais c'est pour dire qu'en fin de compte, on retrouve toujours la même personne derrière.
Samsung est une grosse boîte qui fait énormément de choses. Hein, donc,
Alors, pour vous dire simplement, si on parle de gros sous, au printemps 2016, la France et le Royaume-Uni ont décidé d'allouer 2 milliards d'euros à la confection d'un système de combat aérien du futur, un drone de guerre furtif qui devrait être opérationnel en 2030.
Combien? 2 millions d'euros?
Oui.
2 milliards d'euros? Il paraît qu'on n'a pas d'argent.
Pour ça, si, il y en a. On s'est mis avec les Anglais. Tu sais, ceux qui veulent sortir de l'Europe.
C'est bizarre quand même. Il y a des choses que j'ai
enfin,
du mal
allez voir. Allez voir sur le site d'Amnesty, vous allez voir la bouille de certains robots. Ça fait peur.
J'ai quelques photos, c'est vrai, on peut passer à la radio, j'ai des photos là, mais c'est impressionnant.
La radio, c'est difficile, les photos.
Ouais, mais c'est impressionnant, t'as l'impression que c'est une grosse araignée, c'est des trucs.
Voilà, donc ne faites pas une lecture rapide, ça ne va pas éviter des morts. Ça va rajouter des morts et une confusion totale.
J'étais surpris, parce que j'ai lu l'article aussi, je crois que c'est hier avant-hier, c'est qu'en fin de compte, c'est depuis les années 80 que ça existe. C'est vrai, j'avais jamais entendu parler de ces robots-là. Quoi.
Et ça existe quand même. Ronan, il a lu le même article que moi.
Sans doute.
On a les mêmes sources.
Donc voilà.
Mais il y a quelqu'un qui est à côté de nous pour l'émission. Christian, vous l'a présenté tout à l'heure, mais pour l'instant, le pauvre, on ne lui a pas encore donné la parole.
À Christian.
Donc, je crois qu'il veut vous parler de la Turquie, par contre, Christian.
Oui, Edith tout à l'heure a fait allusion à Lou Bureau, ce journaliste français qui a été incarcéré pendant près de 2 mois dans les prisons turques pour avoir commis le crime de terrorisme.
Non, excuse-moi, oui, Christian, oui. Approche-toi au maximum du micro.
D'accord, ben je suis en train de l'embrasser.
Faut qu'il apprenne, Christian.
Ben, quand on a commencé ici, je me rappelle, JC nous a dit comme ça, c'est comme si c'était une glace à peu près que... Donc tu t'approches comme si tu mangeais une glace, en fin de compte.
Oui, mais elle est pas terrible.
Non, t'as raison.
Donc Lou Bureau, qui a commis l'horrible crime terroriste d'interroger des séparatistes kurdes. Bon, lui, il a eu la chance de bénéficier de l'appui de la diplomatie française et il est sorti de prison. Maintenant, il est en France. Bon, c'est tant mieux pour lui. Malheureusement, je vais vous parler d'autres personnes. Ahmed Sik, journaliste, qui est détenu depuis le dernier trimestre de 2016. Asli Erdogan, une célèbre écrivaine qui a passé 6 mois en prison. Kadri Gürsel, exactement, un journaliste aussi. Ahmed Altan, tous ceux-ci qui sont en prison depuis fin 2016. Ce sont beaucoup de journalistes, d'intellectuels qui sont en prison parce qu'ils sont accusés de terrorisme pour avoir osé dire la vérité sur ce qui se passe en Turquie.
À faire leur métier, quoi.
À faire leur métier, tout simplement. Alors, je ne sais pas si tu as lu le même article, mais justement, on dit « le journalisme n'est pas un crime ». Les personnes qui exercent cette profession doivent avoir le droit de travailler. C'est leur métier.
C'est drôle l'information déjà.
Voilà, exactement. Il faut savoir qu'en Turquie, alors on considère qu'il y a plus de 150 journalistes qui sont emprisonnés. C'est-à-dire qu'il y a plus de journalistes en prison en Turquie que dans n'importe quel autre pays au monde. Et on considère que le tiers des journalistes emprisonnés dans le monde sont en Turquie. Vous vous rendez compte, la Turquie n'est pas un pays immense. Battre un tel record. Ça, c'est la stratégie du gouvernement qui consiste donc à emprisonner tous ceux qui osent s'exprimer. On espère comme ça empêcher l'opposition, la dissidence de s'exprimer. Donc il ne faut pas, donc on a dit tout à l'heure qu'il faut pouvoir agir contre cette répression et l'arme dont nous disposons, nous, c'est de signer massivement les pétitions en faveur de ces journalistes. Ce n'est quand même pas normal que l'on fasse taire comme ça les gens qui ne font que dire la vérité. Voilà. Vous voyez, c'était bref.
Qui ne font que faire leur métier, de toute façon.
Et qui ne font que faire leur métier, tout à fait.
Oui. Et le problème après, c'est qu'ils ferment les journaux. Donc ça veut dire que, voilà.
160 organismes de presse ont été fermés. Voilà. Tout à fait, 160. C'est-à-dire à la quasi-totalité, quoi, on peut pas dire.
Et ça me frappe, parce que l'argumentaire qui est utilisé par les répressifs, qui est utilisé par les autorités turques contre les journalistes, contre le droit d'informer, c'est toujours le soupçon d'activité terroriste ou de contact avec l'activité terroriste. Et par rapport à ce qu'on vous a dit en début d'émission, aussi, est-ce qui est prévu dans le texte de loi française, alors il faut remettre les choses à leur place, on n'est pas en Turquie, bien évidemment, mais le soupçon de vouloir, d'avoir des projets ou de participer à des actes terroristes est aussi retenu dans les textes qui sont actuellement en discussion en France. Donc ça rappelle des choses, encore une fois, très très malsaines.
Et la Turquie, c'est depuis le coup d'État manqué,
tout à fait,
que ces lois se sont, voilà, qu'Erdogan a mis ses politiques en œuvre.
Tout à fait.
Et ça, je vois ce que tu disais tout à l'heure, c'est que chacun peut donner sa définition du terrorisme.
Exactement.
Comme il l'entend. Tu n'es pas d'accord avec moi, voilà. Tu es terroriste.
J'ai gardé une photo du mauvais dans ma poche, zut.
Oui.
J'ai pas eu le bon. Voilà.
Je peux répéter ce que j'ai dit à la dernière émission, mais ce n'est pas grave. Mais c'est très bref. Donc, parce que Ronan vous en parlait de la directrice d'Amnesty qui est toujours en prison, l'Amnesty Turquie, qui est toujours en prison en Turquie.
Mais justement, je vais lui en parler.
Voilà. Et simplement, c'était pour vous dire que. Je ne m'en rappelle plus maintenant.
On va écouter Ronan.
Que je voulais vous faire.
Mais non, mais justement, moi, je trouvais que c'était. Parce que je n'étais pas du tout au courant, justement, que Christian allait faire ce sujet-là. Et justement.
Si, on en avait parlé tout à l'heure. Mais bon, bon entendu.
Mais quand il a préparé son émission.
Laisse-moi terminer. Quand j'ai préparé mon émission, j'étais pas au courant. Et j'avais prévu un sujet, justement, qui était. Parce que tout le monde. Nous, ça nous tient un petit peu plus à cœur, parce que je veux parler de Idil Ezer. Qui en fin de compte qui est la directrice d'Amnesty en Turquie, qui est en prison déjà depuis Chassa d'informant
depuis juillet.
Oui, depuis juillet.
Oui, depuis trois mois.
Juillet,
je crois.
Donc là, j'ai un témoignage de Salih Chetty, qui est lui, si je ne me trompe pas, doit être le directeur Amnesty.
C'est le secrétaire international d'Amnesty.
Voilà, merci Didier, qui a eu la chance, on peut appeler la chance de la rencontrer. Donc en fin de compte, je vais parler donc à un moment à la première personne, en fin de compte, c'est Salih Chetty qui parle.
Tu vas prendre sa voix, d'accord.
Mais en français, comme. Donc, en raison des dispositions qu'il émet aux membres de la famille immédiate, les visites aux personnes emprisonnées en application d'état d'urgence, Idil a été entièrement coupée de ses amis. Or, elle n'a plus de famille proche. J'avais tenté de rendre visite à Idil dès mon arrivée en Turquie, quelques jours plus tôt. Mais une fois aux portes de la prison, je m'étais vu refuser l'accès à l'établissement. Après avoir rencontré à Ankara le ministre de la Justice et sollicité à nouveau une autorisation de visite, j'ai enfin pu la voir. De toutes les prisons du monde où je me suis rendu, celle de Silivri à savoir que c'est le plus grand établissement pénitentiaire d'Europe et la plus sophistiquée et la plus intimidante. Après être passé par son importante porte d'entrée et avoir été soumis par des gardiens courtois à une fouille corporelle, à des détecteurs de métaux et à un scan de l'iris, je ne sais pas que ça se faisait. Mais...
Faut savoir qui tu es. Hein.
Je me suis retrouvé dans une immense ville de béton. Malgré la taille du complexe, parce qu'on pense quand même que la prison accueille comme 17 000 détenus, le lieu est étrangement désert. Seul le claquement métallique d'une porte de prison ou le coup de sifflet aigu d'un gardien vient par moments rompre le silence oppressant. Les bâtiments en béton où aider les emprisonnés sont peints en jaune. Ça me fait un petit peu rigoler quand j'ai vu ça. Parce qu'en
couleur, couleur de...
C'est la couleur d'Amnesty. Bon, ça, c'est une petite touche personnelle. Ouais. Sont peints en jaune et séparés des autres blocs par un haut mur. Je suis soumis à une ultime contrôle, puis conduit dans une grande salle très éclairée, dépourvue de fenêtres. Au moment même où je m'assieds à une table au milieu de la pièce, une porte s'ouvre de l'autre côté de la salle. C'est idéal. Quand elle me voit, une expression d'étonnement et de joie apparaît sur son visage et ses yeux brillent d'une énergie familière. « Salil !» s'écrie-t-elle, laissant derrière elle les deux gardiens qui l'escortent pour s'élancer vers moi, bras tendus. « Quelle surprise !» m'a-t-elle dit. « Je savais que tu étais en Turquie et que tu essayais de me voir, mais je ne pensais pas que tu obtiendrais une autorisation. » Idil est comme nous l'avons toujours connu et aimé, souriante et positive. « Je vais bien, » dit-elle. Rayonnante. Tu ne vois pas, je fais du yoga, du sport, j'apprends le russe, je lis tous les journaux et je fais nécessaire pour m'occuper. Cependant, Idil reconnaît que son isolement est très difficile à vivre. Bien qu'elle partage une cellule avec une co-détenue, elle ne peut même pas parler aux autres défenseurs des droits humains arrêtés en même temps qu'elle, comme Özlem Dalkiran, qui n'est que à 3 portes de la sienne, et pour avoir ses nouvelles, elle les a que en lisant les journaux, alors que la cellule est 3 portes à côté, quoi. Je ne suis pas autorisé à passer des appels téléphoniques tous les 15 jours, comme les autres prisonniers, et je ne reçois aucune des lettres qui me sont envoyées. Tout ce que j'ai, ce sont les messages que me transmet mon avocat. Idil me dit que son séjour à Silivri lui a permis de mieux comprendre les épreuves que les prisonniers traversent et qu'elle a l'intention de militer davantage pour les droits des détenus à l'avenir. Je parle à Idil de la réunion que j'ai eue avec ses amis et du fait que le ministre de la Justice a semblé accueillir favorablement notre demande quand nous l'avons prié d'autoriser Idil à recevoir leur visite. Étant donné qu'elle n'a pas de famille, je lui dis aussi qu'on s'occupe bien de ses chats. C'est vrai que c'est assez humoristique quand même. Idil est également impatient de savoir ce que devient Amnesty Turquie en son absence. Elle déborde visiblement de fierté quand je lui dis que, loin d'être découragée, son équipe, stimulée par du café fort et un immense sentiment d'injustice, est plus motivée et plus déterminée que jamais. Nous conservons sans effort, et si je n'avais pas une conscience aussi aiguë du cadre, je pourrais imaginer que nous sommes dans un café, Plastaskim, mais alors la porte s'ouvre et le gardien nous informe qu'il ne nous reste que 5 minutes. Dis à tout le monde de ne pas s'inquiéter, ajoute Idil alors que nous apprêtons à nous séparer. J'ai fait le choix de travailler sur les droits humains, je suis prêt à en payer le prix et je n'ai pas peur. Personne n'a été libéré avant 4 mois dans des affaires politiques. Je suis psychologiquement prête à rester ici pendant 1 an. Mon séjour en prison a encore renforcé ma détermination à défendre mes valeurs. Je ne les sacrifierai pas. Alors que l'on me reconduit vers la sortie de la prison, je réfléchis à la façon dont Idil a tiré parti de l'injustice révoltante qui lui était faite pour nourrir ses convictions et renforcer sa détermination. Je suis frappé de constater que jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas pris la mesure de sa remarquable force intérieure. Le temps passé avec elle me rappelle aussi que le courage est contagieux. Sa force a renouvelé ma propre détermination à lutter, non seulement pour sa libération, mais aussi pour la libération de toutes les personnes injustement emprisonnées en Turquie. Alors que je ressors par les portes imposantes de la prison de Silivri, je me rends compte que quand le vent souffle dans la bonne direction, on peut sentir le parfum de la mer de Marmara et même un goût de sel sur ses lèvres, et le goût est celui de la liberté.
Voilà. Donc c'était le compte-rendu de la visite qu'a fait Salil Chetti, c'est
tout
ça,
à fait,
le
secrétaire
international auprès de Idil, qui est en prison en Turquie, la directrice d'Amnesty Turquie.
Et c'est vrai, c'est emprisonné avec une quinzaine d'autres défenseurs.
Et qui sont des cellules juste à côté d'elle qu'elle ne peut pas rencontrer. Et ça, c'est vrai, ce qui est fort, c'est qu'en fin de compte, même lui dit qu'il ne savait pas la force qu'elle avait, qu'en fin de compte, elle est...
Ben c'est tout, c'est un beau témoignage, parce que c'est, effectivement, ça nous incite à rester sur la brèche, si je puis dire.
Ah oui.
Ouais, et à rester en surveillance sur la Turquie aussi.
Voilà, ça m'est revenu ce que je voulais vous dire sur la Turquie, j'avais déjà dit, c'est que ce qu'ont dit les autorités turques, ça va être très court, ce qu'ont déjà dit les autorités turques par rapport à Amnesty, c'est que nous sommes une organisation terroriste nous-mêmes. Donc on vous rappelle que ceux qui parlent dans le micro tout de suite, les membres d'Amnesty, nous sommes des terroristes, on l'avoue tout de suite.
Mais il semble que les Russes n'ont pas dit pareil aussi, ton ami. Ça fait longtemps que tu n'as pas parlé de ton ami Poutine.
En parlant de prison, je croyais qu'il y avait Christian qui voulait vous dire quelques mots, on n'a plus beaucoup de temps, mais quelques mots sur une histoire de prison française.
Bref.
Vas-y.
Alors, j'ai beaucoup de chiffres, alors je vais les résumer. En fait, ce matin, en écoutant la radio, j'ai appris que 4 prisonniers de la maison d'arrêt de Nîmes avaient porté plainte contre l'État français pour mise en danger de la vie d'autrui. Alors, avant de développer un petit peu, je veux vous dire d'ailleurs que le tribunal s'est déclaré incompétent. Parce qu'on n'attaque pas l'État français comme ça, évidemment. En fait, de quoi se plaignent-ils ? Ils se plaignent de surpopulation. La prison de Nîmes est un très bon exemple, puisqu'il y a 300 places, il y a 600 prisonniers. Voilà. Globalement, en France, il y a environ 60 000 places. Alors, les chiffres sont sujets à caution, bien sûr, chacun donne le sien. Il y a 60 000 places, il y a au moins 70 000 prisonniers. Au moins 70 000. J'ai lu le chiffre de 84 000 sur un site internet. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces prisonniers, à peu près un tiers n'ont pas encore été jugés. Ce ne sont que des prévenus, donc a priori innocents, puisque tant qu'on n'a pas été jugé, on est considéré comme innocent. Alors pourquoi aussi faut-il signaler ce cas ? La prison n'est pas une solution. La plupart des condamnés qui font leur peine récidivent. Ce n'est pas la peine d'augmenter indéfiniment le nombre de places. Il a doublé en 20 ans, et le taux de criminalité est le même. Donc il faut peut-être que notre gouvernement se pose les bonnes questions et essaie de trouver des solutions. Il y en a, il faut prendre l'exemple du Canada, où les mises en liberté conditionnelle sont beaucoup plus fréquentes qu'en France. Il y a la surveillance par bracelet électronique, etc., etc., etc. Voilà, je ne développe pas plus... Et je vous remercie de m'avoir écouté.
Merci de ces infos.
Oui, enfin, c'est une nouvelle fois. Je pense que la France va être condamnée, c'est pas la première fois, exactement. Par les autorités européennes, la défense des droits humains, pour non-respect de la réglementation européenne sur les conditions de détention en France.
Et l'Observatoire des prisons qui...
Voilà, régulièrement, la France est alignée par rapport à ça. Et nous ne sommes pas du tout respectueux des devoirs, effectivement. Alors que l'État français trouve des milliards pour trouver des drones, c'est ça, on disait ? Ils ne trouvent pas d'argent.
Pour faire voilà, des petites choses. D'argent.
Non, ce n'est pas des drones, c'est des robots tueurs.
Ouais, ça c'est, voilà, on les appelle drones,
par contre, c'est comme
mieux.
Des drones, mais dedans, ils sont armés comme...
Oh, il y en a même avec des pattes.
Bon, ouais, mais c'est impressionnant. Moi, j'ai vu le truc, c'est vraiment impressionnant. Quoi.
Bah, j'ai pas vu. Mais bon, ils ne trouvent pas d'argent pour améliorer l'état des prisons. C'est quand même dingue. On s'approche du terme de l'émission. Il y a Manu qui vient d'arriver, qui va prendre l'antenne de notre suite pour le laboratoire. On le salue au passage. Et donc, on vous donne rendez-vous.
Et aux auditeurs, on leur dit.
On leur donne rendez-vous à la prochaine émission. C'est quand la prochaine émission, Renan ?
Je voulais te piéger.
Ah,
Didier, il a oublié son téléphone.
J'ai oublié mon
pas.
Téléphone, j'ai pas mon calendrier.
Le mardi 17 octobre.
Mardi 17 octobre, 17h19.
Non, 19h.
N'importe quoi. 19h20. 19h20 pour le direct. Et on vous rappelle que toutes nos émissions sont en podcast sur le site de Principe Actif, principeactif.net, rubrique Amnesty. N'hésitez pas à nous réécouter si vous nous avez raté ou si vous voulez reprendre nos informations. N'hésitez
bonsoir
pas.
À tous, merci.
Bonsoir,
bonne
soirée. À bientôt.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.